Bonsoir, chers amis, chers camarades, et bienvenue à la fête de lutte ouvrière. La fête de lutte ouvrière, c'est une occasion de nous retrouver autour d'une grande moule frite, de chanter, de parler avec son voisin de table, même si on ne le connaît pas. C'est la force des idées de la classe ouvrière de nouer des liens entre tous les exploités. Nous sommes tous des salariés, des chômeurs, des retraités. Nous n'exploitons personne. Et si nous regardons autour de nous, nous voyons des cheveux blancs, des calvicies. Il y a les enfants, les futures générations occupées à jouer et qui n'écouteront pas mon discours. Mais on voit aussi des jeunes qui ont rejoint le combat communiste révolutionnaire pour abattre le capitalisme et construire une société débarrassée de l'exploitation, des inégalités, de la misère. Cette fête est une des expressions de la persistance des idées communistes et nous pouvons en être fiers. Nos idées sont une boussole qui nous permettent de comprendre le monde afin de pouvoir le changer et je voudrais justement dire quelques mots sur l'actualité. Comme tous les gouvernements depuis 25 ans, de gauche, de droite, gauche et droite ensemble, le gouvernement actuel a entrepris de s'attaquer aux retraites. Après avoir réduit les droits des chômeurs, s'en être pris aux hôpitaux, aux écoles, aux salariés de la SNCF, aux droits ouvriers avec la loi travail et la démolition du Code du travail, voilà maintenant que Macron et son gouvernement veulent poursuivre la démolition des retraites débutée par les précédents gouvernements. Que l'on parle d'âge pivot à 64 ans, comme l'a préconisé Delevoye, ou que l'on préfère, comme Macron, allonger la durée de cotisation, tous les futurs retraités seront perdants. Avec la modification du mode de calcul, nous allons tous y perdre parce que nos pensions ne seront plus calculées sur les meilleures années, mais sur la totalité de nos carrières. Le gouvernement présente le point comme une mesure de justice sociale, mais la valeur du point, elle peut être modifiée sur simple décision du gouvernement. De réforme en réforme, c'est toujours la même folie. Pour toucher une retraite complète, il faudrait rester au travail après 62 ans, alors que la moitié des plus de 55 ans sont licenciés, mis au chômage ou en invalidité. Il faudrait avoir cotisé 43 ans, alors que la précarité et les périodes de chômage sont devenues le lot commun. Le gouvernement parle d'égalité, mais ce sera l'égalité dans les sacrifices et dans les retraites de misère. Après avoir fait toute une campagne sur l'urgence qu'il y a à modifier le système des retraites, voilà le gouvernement qui change d'allure, qui fait traîner en longueur la réforme des retraites. Il a lancé un pseudo-débat de plusieurs mois. Le gouvernement joue la prudence parce qu'il redoute les réactions populaires et ne veut prendre aucun risque avant les municipales. Avec le mouvement des Gilets jaunes, une part du mécontentement qui couve dans la population a pu s'exprimer et la colère couve toujours. Dans certains secteurs, elle s'exprime même par des mobilisations comme chez les travailleurs de l'hôpital ou les pompiers. Grâce à leur mobilisation, tout le monde sait aujourd'hui que non, il n'y a pas assez d'effectifs dans les hôpitaux ni chez les pompiers, c'est-à-dire dans les services publics utiles à la population. L'hésitation de Macron et de son gouvernement, c'est bien le signe que nous pouvons nous faire respecter. Et si Macron a trouvé urgent d'attendre, les travailleurs, eux, n'ont aucune raison de rester les bras croisés. Nous pouvons stopper ces attaques à condition de nous rassembler et d'exprimer notre colère collectivement, à condition de nous faire craindre, et nous pouvons le faire avec nos armes de travailleurs, la grève et les manifestations. Car les travailleurs n'ont aucune raison d'accepter de se faire voler une partie de leur pension. Macron, cet ex-banquier arrogant, veut faire croire qu'il s'agit d'égalité. Mais chaque euro pris aux retraités du monde du travail ne sert qu'à arroser les actionnaires et grossir les fortunes délirantes d'une minorité. Et chaque année, Ce sont des dizaines de milliards d'euros qui sont déversés dans les poches des grands patrons sous prétexte d'aide à l'embauche. Depuis des années, le chômage n'a cessé d'augmenter. Et quand il baisse, c'est que les statistiques sont trafiquées. Et cet argent public, pris dans la poche des retraités, des travailleurs, des chômeurs qui n'arrivent pas à boucler leur fin de mois, il enrichit les plus riches. Vous connaissez Bernard Arnault, le PDG de LVMH, et bien lui, il a vu son patrimoine augmenter de 100 millions par jour, 3 SMIC à la seconde. Ça, c'est sûr que lui ne se pose pas la question de comment il va vivre quand il sera à la retraite. Mais plus grave encore, pour l'avenir de l'ensemble de la société, tous ces sacrifices ne servent au bout du compte qu'à alimenter un système financier hors de tout contrôle. À chacune de leurs attaques, grands patronats et gouvernements expliquent la bouche en cœur qu'il s'agit de préserver l'avenir. À les en croire, ils suppriment des lits dans les hôpitaux pour sauver le système de santé. Ils réduisent les droits des chômeurs pour pérenniser le système d'allocation chômage. Ils s'acharnent contre les retraités pour garantir l'avenir du système de retraite. Mais c'est faux. Non seulement toutes ces réformes entraînent une régression du niveau de vie des travailleurs, mais en plus, ceux qui dirigent ne savent même pas si dans un mois, dans 6 mois, dans 1 an, leur économie sera encore sur pied. Pas une semaine ne passe sans que les économistes bourgeois n'annoncent l'imminence d'un nouveau krach. Bulle boursière, bulle sur l'or, bulle immobilière, la spéculation fait rage parce que dans ce capitalisme pourrissant, la finance rapporte plus et bien plus vite que tout investissement dans la production. La spéculation a accumulé une telle quantité de matière explosive que le moindre choc, la moindre incertitude ou de mauvaises prévisions peuvent agir comme un détonateur sur un baril de poudre. Une nouvelle preuve de l'indinguerie du système, c'est que maintenant, les États, la France, l'Allemagne, la Belgique, les États-Unis, empruntent des dizaines de milliards à des taux négatifs. Autrement dit, les prêteurs de capitaux perdront de l'argent. Et si les capitalistes se ruent sur la dette des États, qu'ils pensent être des valeurs sûres, quitte à perdre des millions, ce n'est pas parce qu'ils ont perdu la tête, non. C'est parce qu'ils se préparent au pire, c'est-à-dire à un nouveau krach, et qu'ils pensent que leur capital sera plus à l'abri d'un krach s'ils le placent dans des emprunts d'État. La menace d'un krach plane à nouveau. Krach qui pourra avoir des conséquences désastreuses pour toute l'économie. Ils le savent, mais ils sont incapables d'arrêter leur spéculation. Dans la folle concurrence que les capitalistes se mènent entre eux, aucun ne veut arrêter de spéculer avant les autres, car tous veulent rafler la mise. Et c'est pour cette économie de casino que les travailleurs devraient se saigner ? Non. Ce système économique absurde, nous les travailleurs, nous avons les moyens d'y mettre fin. En nous battant pour les intérêts du monde du travail, en nous battant justement pour que les richesses que nous produisons servent aux salaires, aux emplois, aux retraites et à toute la société au travers des services publics. En plus d'être fou, ce système est dangereux. Nous en avons eu un exemple avec l'incendie de l'usine Lubrizol à Rouen. Alors, on nous a expliqué que les fumées n'étaient pas toxiques et en même temps que les écoles d'une douzaine de communes ont été fermées pendant 3 jours. Les pouvoirs publics ont demandé aux agriculteurs de suspendre leurs récoltes et à la population de rester confinée. Alors, on comprend l'angoisse des habitants. Et cet énième accident a de quoi tous nous inquiéter. L'usine Lubrizol, bien que située à 3 km du centre-ville et entourée d'habitations, était répertoriée Seveso seuil haut. Elle était donc censée faire l'objet d'une surveillance renforcée et elle s'est avérée être une véritable poudrière. Il y a en France 705 sites industriels et chimiques classés à ce niveau de dangerosité. Eh bien, ce sont 705 AZF en puissance. Car sur le fond, rien n'a changé depuis 2001 et l'explosion de l'usine AZF à Toulouse qui avait fait 31 morts et 2500 blessés. Ces usines font courir des risques insensés aux travailleurs et à la population parce que la recherche de profit finit toujours par prendre le pas sur la sécurité. Du scandale de l'amiante au Dieselgate, en passant par le Mediator des laboratoires Servier ou la Dépakine de Sanofi, nous savons que le grand patronat n'a aucun scrupule à prendre le risque de nous empoisonner du moment que les profits sont là. Et comme l'affaire du Mediator en témoigne, cela se fait souvent avec la complicité des autorités et de ceux censés contrôler, industriels et laboratoires. Alors oui, il y a de quoi se méfier des pouvoirs publics comme du grand patronat. Ils sont tous liés les uns aux autres. Ils sont tous, ô combien, respectueux des intérêts des grands trusts et de leur image. La planète en dut-elle en crever ? Aujourd'hui à Rouen, des habitants et des associations s'organisent pour demander des comptes et ils ont raison. Mais là encore, c'est l'action organisée et collective des travailleurs qui sera décisive. Notre société utilise la chimie, le gaz, le pétrole, l'énergie nucléaire, mais ces activités dangereuses ne doivent pas être soumises au profit privé. Les salariés de ces entreprises sont capables de les contrôler et de dénoncer les dangers encourus. Ils peuvent le faire en association avec la population qui s'en préoccupe et se mobilise. Oui, en plus de lutter contre le grand patronat pour leurs salaires et leurs conditions de travail, les travailleurs ont à combattre l'irresponsabilité de tout un système qui nous menace en permanence. La classe ouvrière est la seule classe sociale à pouvoir changer la société. Oui, nous avons confiance dans la classe ouvrière et cette confiance, elle ne dépend pas de ce qu'est la classe ouvrière aujourd'hui, de sa combativité à tel ou tel moment, ni ce qu'elle peut voter à telle ou telle élection. Les travailleurs ne sont pas dotés d'un sens révolutionnaire inné. Quand ils n'ont pas confiance dans leur force collective, les travailleurs acceptent leur sort, ils s'adaptent à la société, ils deviennent individualistes et croient dans la réussite personnelle ou le nationalisme. Notre confiance dans la classe ouvrière tient du rôle que la classe ouvrière joue dans la société, en produisant toutes les richesses, en concevant toutes les machines, en organisant la circulation des marchandises sur toute la planète. En leur temps, Marx et Engels ont su voir que le capitalisme a rassemblé les moyens de production, les usines, les transports, les banques, qu'il a concentré en faisant travailler ensemble des milliers, des centaines de milliers de personnes. Avec le développement du capitalisme à l'échelle de la planète, les trusts, les multinationales ont, de fait, socialisé et collectivisé le travail et la production. Des dizaines, des centaines de milliers de salariés sont intégrés dans le même processus de production. Ils travaillent ensemble, mais ils travaillent pour le compte d'une ou de quelques familles bourgeoises. Alors, pour réaliser le socialisme, il ne reste qu'à supprimer la propriété privée des capitaux. C'est un des apports fondamentaux de Marx et d'Engels, de réussir à montrer que la société capitaliste porte en son sein le socialisme. Il ne reste qu'à enlever à la grande bourgeoisie la propriété privée des moyens de production et mettre ceux-ci sous le contrôle des travailleurs et de toute la société. C'est l'intérêt profond de la classe ouvrière qui, comme disait Marx, n'a rien d'autre qu'à perdre que ses chaînes. Bien sûr, cela ne sera pas simple. Cela paraît utopique, mais des révoltes, des révolutions, des mouvements puissants des masses populaires qui surprennent tout le monde par leur soudaineté, y compris les militants révolutionnaires, il y en a eu, il y en a et il y en aura. Il y a un an, au mois d'octobre, qui aurait pu prévoir que le mouvement des Gilets jaunes allait démarrer un mois plus tard ? En Algérie, qui aurait prévu que des millions de travailleurs, de chômeurs, de femmes, de petits commerçants soient toujours mobilisés depuis le 22 février pour changer le système ? Depuis le 20 septembre, en Égypte, Il y a des manifestations contre la dictature et contre les conditions de vie qui deviennent insupportables pour les classes populaires. En Irak, depuis 4 jours, il y a des manifestations dans toutes les grandes villes contre la corruption et la misère. Et malgré la centaine de morts et les milliers de blessés, les manifestations continuent. En France, le mécontentement est profond chez les travailleurs, les chômeurs, les retraités. Il finira par éclater. Quand, comment, avec quelle puissance, ça, personne ne peut le savoir. Mais quand cela se produit, ce que disait à la fin du XIXe siècle un des fondateurs de la CGT, Fernand Pelloutier, prend toute son importance. Il disait « Ce qui manque à l'ouvrier, c'est la science de son malheur, c'est de connaître les causes de sa servitude, c'est de pouvoir discerner contre quoi doivent être dirigés ses coups. » Car les explosions de colère limitées comme celles des Gilets jaunes ou massives comme en Algérie ne suffiront pas. Les travailleurs doivent retrouver le chemin de l'organisation et de la lutte pour leurs intérêts communs, le chemin de la conscience de classe. Se détourner de la politique, c'est se résigner à subir la politique décidée par des partis qui se placent du point de vue du patronat et de l'ordre capitaliste. Il faut que les travailleurs se battent pour leur propre politique, une politique de classe représentant leurs intérêts matériels à court terme et leurs intérêts politiques à plus long terme. Au-delà de la défense de leurs intérêts immédiats, les travailleurs doivent contester la domination de la bourgeoisie sur l'économie et la société. Ils doivent affirmer la nécessité de renverser le capitalisme, c'est-à-dire la nécessité que la classe ouvrière exproprie la classe capitaliste, prenne le pouvoir politique et l'exerce de façon collective et démocratique. Cette politique ne peut exister et être défendu en permanence que si un parti l'incarne, un parti ouvrier, communiste et révolutionnaire. S'il y a un reproche valable qui peut nous être fait à lutte ouvrière, c'est qu'on n'est pas assez nombreux, que nous ne sommes qu'un petit parti. C'est vrai. Mais dans toute l'histoire du mouvement ouvrier, les révolutionnaires ont toujours été minoritaires, sauf dans les périodes où la classe ouvrière s'est retrouvée dans la situation de contester l'ordre bourgeois dans les révolutions. Et bien que nous soyons minoritaires aujourd'hui, notre courant existe dans le monde du travail. Et notre présence à l'élection européenne a permis à 170 000 travailleurs de voter pour leur camp. Nous sommes minoritaires aujourd'hui, mais quelles perspectives les autres partis offrent-ils aux travailleurs ? Voter Macron ? Pour se protéger de Le Pen, mais c'est précisément la politique anti-ouvrière du gouvernement et des gouvernements précédents qui permet à Le Pen de prospérer. Mais c'est Macron qui a lui-même lancé l'idée d'un grand débat sur l'immigration. Et à qui cela va-t-il profiter ? À Le Pen. Certains travailleurs sont tentés de voter Le Pen pour dégager Macron. Mais Marine Le Pen est une millionnaire, une fille à papa. Et comme papa, elle est d'extrême droite. Ses idées racistes visent à diviser le monde du travail, à monter les travailleurs français contre les travailleurs immigrés, à montrer du doigt ceux qui sont au chômage. Il n'y a rien pour les salariés dans son programme. Et si elle accède un jour à la tête de l'État, ce sera, comme tous les autres, pour servir les banquiers et les actionnaires. Au nom de la défense de ce qu'elle appelle la compétitivité des entreprises, Le Pen est contre l'augmentation du SMIC. Dans ses discours, ses interventions, elle n'a jamais un mot pour dénoncer l'exploitation et la rapacité capitaliste. Le Rassemblement national présente les migrants comme seuls responsables de tous les problèmes. Mais qui a détruit des millions d'emplois, si ce n'est le patronat, pas les immigrés ? Qui organise le manque de logements pour les classes populaires pour mieux spéculer sur l'immobilier ? Qui nous pourrit la vie au quotidien avec les services publics insuffisants et saturés ? Qui a sabré dans tous les budgets utiles à la population ? Pas les réfugiés des guerres et de la misère. En visant les migrants, l'extrême droite cherche à exonérer les vrais responsables de la situation désastreuse du monde du travail. Les responsables, ce sont les patrons licencieurs et l'État à leur service. Cette démagogie lepéniste divise les travailleurs et les affaiblit dans le combat qui les oppose à leurs exploiteurs. Quant à la gauche gouvernementale, le Parti socialiste, le Parti communiste français, la France insoumise, elle a été ratatinée aux dernières élections et elle essaye quand même de redonner vie à son cadavre. Mais pour quelle politique ? Pour refaire ce qui a été fait sous la présidence de Mitterrand, de Jospin, de Hollande, pour refaire une énième édition d'une politique au service du grand patronat contre les travailleurs, les chômeurs, les retraités ? D'ailleurs, avec la mort récente de Jacques Chirac, homme politique de droite, on a pu voir tout ce petit monde de politiciens de gauche se précipiter pour lui rendre hommage. Chirac, fidèle à ses idées politiques, à ses liens avec les milieux de la grande bourgeoisie, a utilisé les années qu'il a passées au gouvernement ou à la présidence de la République pour mener des attaques contre le monde du travail, attaques contre les retraites, vol d'un jour férié aux salariés sous prétexte de jours de solidarité envers les retraités. C'est aussi Chirac qui flatta les préjugés racistes les plus odieux en parlant du bruit et de l'odeur pour désigner les familles immigrées. Mais cela n'a pas empêché le Parti communiste français, par la voix de son secrétaire Fabien Roussel, de saluer la mémoire de Jacques Chirac. Il s'est dit, je le cite, « comme la majorité des Françaises et des Français, attristé par l'annonce du décès du président Chirac, un homme qui, jusqu'au bout, aura été apprécié pour la proximité des liens qu'il avait su tisser avec ses concitoyens. » Alors oui, quand on voit des hommes politiques qui se disent communistes ou qui prétendent représenter les intérêts des travailleurs faire les louanges de Chirac, on se dit qu'il y a une urgence. Urgence à réfléchir à qui sont nos ennemis, qui sont nos faux amis. Urgence à définir qui est dans notre camp et qui est dans le camp d'en face. Urgence à choisir avec quelles idées les travailleurs, les chômeurs, les retraités seront plus forts pour s'organiser aujourd'hui et pour se battre demain. L'urgence, elle est dans la nécessité. L'urgence, elle est dans la nécessité de construire un parti communiste révolutionnaire. Et ce parti ne pourra véritablement voir le jour que dans les moments où des centaines de milliers, des millions de travailleurs seront mobilisés et s'intéresseront à l'avenir de la société. Et en dehors de ces périodes, il existe toujours des opportunités pour développer la conscience des nôtres et regrouper celles et ceux qui en comprennent la nécessité. Il y a des grèves, les grèves et des mobilisations, même limitées, peuvent aider à la construction du parti révolutionnaire. Et puis il y a aussi les élections, qui sont des périodes qui suscitent un peu plus d'intérêt, car il faut ne serait-ce que choisir pour qui voter. En mars 2020, dans 6 mois, il y aura dans le pays les élections municipales. Lutte ouvrière y présentera des listes partout où cela sera possible. Celles et ceux qui se reconnaissent dans le camp des travailleurs, qui font un vote ouvrier conscient, doivent pouvoir voter pour une liste lutte ouvrière aux municipales. Et les révolutionnaires ne se présentent pas aux municipales pour gérer les communes. Nous nous présentons pour dénoncer les attaques anti-ouvrières, se faire les porte-parole du mécontentement des classes populaires, contester le système capitaliste et l'État en tant que garant des intérêts de la bourgeoisie. Et s'il y a des élus communistes révolutionnaires dans les communes, cela offrira encore plus de moyens pour se faire entendre et regrouper autour de nous celles et ceux qu'ils souhaitent. Alors, aidez-nous à construire le parti révolutionnaire, pour que le camp des travailleurs puisse être présent dans le maximum de municipalités. Nous avons besoin de chacun, nous avons besoin de tous. Alors si vous voulez nous aider pour cette campagne, et tous les coups de main, même les plus petits, sont les bienvenus, n'hésitez pas à passer au kiosque que nous avons installé dans la salle, près de la librairie. Je vous souhaite encore une fois une bonne fête, vive le communisme et vive la classe ouvrière.
De la terre, debout les forces de la terre.